Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royans Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle chronique Osons l'intime. Nous retrouvons aujourd'hui Céline et Stéphanie du collectif Féminin Naissance Royans Vercors. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et on aborde à nouveau une thématique que l'on a abordée donc dans la précédente chronique avec Céline. Il s'agit du sommeil du bébé, donc épisode 2, où Céline va revenir notamment sur différents témoignages, mais aussi voilà, les différentes recommandations qu'on peut trouver concernant donc ce sommeil du bébé.
Ouais, j'avais envie d'amener un peu de récit et de concret de ce que j'ai pu voir et qui a aussi pu vraiment m'interpeller et qui contribue à construire ma pensée, à prendre du recul et à voir qu'il n'y a pas un chemin et une manière de faire. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le dire. Ça va dépendre d'où vous vous situez, de quels sont vos besoins, de comment vous pouvez vous respecter, accepter qu'il y a des limites pour vous, que votre réalité, elle est à tel endroit et vous allez mettre des choses en place du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez.
Et ça va dépendre aussi beaucoup, je trouve, de notre enfant, de la manière dont il dort, mais aussi de sa personnalité.
J'en profite pour faire un petit point là-dessus. Je pensais le faire plus tard, mais en effet, on peut parfois mettre beaucoup l'accent sur la responsabilité de la mère, du cadre qu'elle pose, de la posture qu'elle tient, de la cohérence qu'elle a. Et ça crée une pression énorme qui peut être très culpabilisante. Et Stéphanie, tu m'as invité à dire... tout est renégociable. Il n'y a pas une empreinte définitive. Peut-être tu veux le dire avec tes mots.
Oui, c'est pour dire que même si parfois on n'a pas toujours été très cohérente, par exemple avec notre bébé, hein, comme on le disait à la précédente chronique, il y a eu des moments où on était sécurisante, puis d'autres moments beaucoup moins présente parce que tout simplement à bout. En fait, même si ça a pu dépasser les limites de notre bébé, tout ça, ça va être renégociable après aussi avec l'enfant. Et même plus tard, quand il aura 3 ans, quand il aura 5 ans, 6 ans, même vraiment plus tard. Et donc, rien n'est figé, c'était vraiment pour dire ça.
Et donc, pour revenir vers l'enfant, l'enfant a sa part aussi et il porte aussi toute une histoire. Et donc, quand il y a des difficultés de sommeil, je vous invite aussi à aller voir un médecin, voir s'il y a une pathologie physique, un RGO, reflux gastro-œsophagien, qui fait qu'il a des brûlants, que quand il est couché sur le dos, ça lui fait mal. Voir aussi avec un ostéopathe s'il y a des choses qui sont douloureuses dans son corps. Vous pouvez aussi aller solliciter par exemple une kinésiologue ou moi je sais que j'ai fait une séance avec mon bébé de communication connectée pour donner la parole à mon enfant et par le biais d'un tiers et voir si il avait des traumas, des peurs. Pour ceux qui y croient, il peut y avoir des récits de vie antérieure ou bien une naissance qui a été traumatique et du coup il est en détresse, il est encore dans le trauma et il a besoin d'être apaisé plus qu'un autre et donc il va pleurer plus qu'un autre. J'en profite pour faire une petite touche sur les pleurs. Les pleurs sont il faut pas à tout prix les arrêter tout de suite. Enfin moi je crois que j'avais vraiment en tant que jeune maman, ce truc de « mon enfant a un pleur, je dois répondre instantanément à son besoin ». Alors oui, quand il est tout petit, tout nouveau-né, le pleur est une demande, c'est sa seule manière de s'exprimer. D'abord, je vais voir s'il y a un besoin physiologique de faim, il est inconfortable, il a trop chaud, est-ce qu'il y a une réponse à donner à cet endroit-là. Et puis parfois, le pleur est juste un besoin d'expression. C'est son seul moyen de communiquer. Et à ce moment-là, ce qui est important, ce que vous pouvez offrir à votre enfant, c'est votre présence et votre écoute. Dire « waouh, je vois que tu as des choses à dire, je vois que c'est dur, ou t'es en colère, ou enfin peu importe, peut-être vous avez une intuition ou quelque chose, ou peut-être vous savez juste pas, et dire bah je vois que t'as beaucoup de choses à dire et je suis là et vas-y, tu peux t'exprimer, tu as le droit de dire, de sortir. Et aujourd'hui on sait que les pleurs libèrent une hormone, la cortisol, qui du coup vient apaiser, rassurer et permet un accès vers plus de détente et donc potentiellement vers le sommeil. Quand il y a trop de charges, ben on peut pas dormir.
Je donne une toute petite astuce à l'occasion qui est un petit peu une anecdote rigolote, mais j'ai déjà croisé, parce que ces pleurs peuvent être par contre assez difficiles à supporter, ouais, en tant que parent, puisqu'on a l'impression, enfin je pense qu'on est aussi biologiquement programmé pour répondre à ces pleurs de notre enfant, et que c'est quelque chose qui vient nous chercher et qui peut être vraiment très difficile à supporter si ça dure notamment plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Et j'ai croisé une fois dans la rue un papa qui avait son bébé qui hurlait sur lui et qui était clairement là pour lui, qui le berçait, etc., mais qui avait un casque anti-bruit sur les oreilles et qui avait l'air de le vivre du coup de manière beaucoup plus sereine. Et je me suis dit, tiens, effectivement, l'idée n'est pas mal.
Je me suis dit pareil quand mon compagnon m'a dit, bah moi j'ai perdu en audition depuis que notre enfant a pleuré pendant des heures et des heures dans mes oreilles. Je dis, ben oui, peut-être qu'on n'était pas obligé de se sacrifier à ce point, de mettre notre santé en danger. Et oui, parfois il y a des petits trucs. Oui. Et ça rejoint la question de comment je me respecte et je prends soin de moi. Et du coup, ça rejoint un peu cette fameuse phrase de quand maman va bien, bébé va bien. Du coup, j'en profite pareil pour glisser cette invitation à vous offrir régulièrement des temps de self-care, de soins, pour vous extraire de ce rôle de maman ou d'accompagnant, enfin de parent, de
figure d'attachement.
De figure d'attachement, oui. Et je crois que ça aussi, c'est une croyance, moi en tout cas, que j'ai eu très fort besoin de déconstruire, de vouloir être le tout pour mon enfant, de devoir être là constamment, répondre à tous ses besoins. Et en fait, je crois que ça a vraiment desservi mon lien avec eux, parce que c'est pas possible de rester régulée, ancrée, apaisée quand je suis là 24 heures sur 24, sollicitée constamment. Et donc, comment j'instaure une hygiène de vie où je me crée des espaces où je peux être seule, et qu'est-ce que je mets en place pour régulièrement avoir ces espaces-là. Et ça, c'est vraiment une démarche. Ok, je me fais un point d'honneur, je prends un rendez-vous dans mon agenda, je sollicite quelqu'un, et c'est quelque part non négociable. Et pour chacun, chacune, ça va être très différent. Aller au hammam, marcher une demi-heure seule, appeler une copine, écrire, dessiner, danser, dormir, faire une sieste. Voilà. Mais ne plus être responsable et potentiellement interrompu au moindre bruit, et du coup se décoller de cette mère sacrificielle qui s'oublie. Alors, on avait dit qu'on parlerait de témoignages. Moi, j'ai été très réticente avec les méthodes, notamment au dodo les petits, dont j'ai beaucoup entendu parler, qui semblait être un peu la solution qu'on me proposait. Et j'avais beaucoup, beaucoup de freins. Et puis, j'ai accompagné une maman qui a mis en place cette méthode-là. C'est un peu l'idée d'accompagner son bébé à un endormissement seul, sans la présence du parent, avec... au début, une réassurance par la voix. Et bon, je ne vais pas tout développer ici, mais...
Encore une fois, on indiquera les références sur le site internet de Radio Royan-Vercors, ouais, quand on mettra la chronique en ligne.
Alors, cette méthode peut avoir plein de critiques comme toutes, hein, j'ai l'impression. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée en voyant cette maman faire, c'était que c'est venu déconstruire ma croyance que si je laissais mon enfant... pleurer, parce que j'avais l'impression que du coup cette méthode me demandait de faire ça, je ne pouvais pas être dans un accompagnement bienveillant et être là pour mon enfant, que c'était pas associable, quoi. Et cette maman que j'ai accompagnée, ben, elle a énormément porté son bébé, ses bébés, elle les a allaités, elle a fait du cododo, elle a fait l'hygiène naturelle infantile qui demande une écoute énorme des besoins du bébé et une présence énorme. Mais par contre, elle a vraiment mis en place dès tout petit, dès les 2-3 mois de son enfant, elle a commencé à proposer des temps où elle le posait, où il puisse s'endormir seul, et à mettre en place des choses pour l'accompagner vers un endormissement autonome. Et du coup, j'ai commencé à nourrir un peu cette croyance de « Ah, peut-être qu'on n'est pas obligé d'en chier. Peut-être qu'il y a un autre chemin. » Après, évidemment, chaque enfant, c'est différent. Bon, elle en a quand même eu trois. Et pour les trois, ça a marché. Et ça l'a pas empêché d'être très proche et très proximale avec ses enfants et d'offrir un accompagnement sur du long terme. Le bénéfice que j'y ai vu aussi, c'est que du coup, elle avait ses temps de sieste de 2 heures. C'est aussi au dodo les petits, un calendrier avec des horaires très rythmés à la minute quand on mange, quand on fait la sieste, qui évolue en fonction du besoin du bébé. Mais du coup, elle savait que tous les jours, elle aurait 2 heures de sieste pour faire la logistique, le truc, enfin d'autres choses. Et ça lui a aussi permis, du coup, de pas faire garder son enfant parce que elle savait qu'elle avait ses plages de sommeil, de repos. Un autre témoignage, j'ai envie de vous parler de la voie de l'entre-deux, entre les méthodes genre au dodo les petits ou la méthode 5-10-15 où l'idée c'est de le poser, de partir, d'attendre 5 minutes, puis de revenir pour le rassurer s'il a besoin, puis de repartir, d'attendre cette fois-ci 10 minutes, puis de revenir, et puis la dernière fois 15 minutes. Alors je vous la fais très courte, hein. Mais donc pareil, il y a des moments, l'enfant du coup va être avec des pleurs seul pendant une certaine période et des temps de réassurance de plus en plus espacés. Pareil, pour certains parents, ça a pu être une solution à un moment donné où ils étaient dans une telle situation d'épuisement que, en fait, quand on est tellement épuisé, on en vient à vouloir secouer son bébé. Moi, je sais que j'ai pu avoir des paroles agressives parce que j'en pouvais plus. Et du coup, parfois, comment est-ce qu'on fait c'est un peu cette question. Comment je fais le grand écart entre mon idéologie de oui, j'aimerais bien qu'on vive en tribu et qu'il y ait 8 figures d'attachement et qu'il y ait plein de personnes qui s'occupent de toutes les tâches logistiques pour que je puisse être concentrée sur mon bébé. Et en même temps, il y a ma réalité de, en fait, je suis seule, mon mec, il bosse et je suis épuisée. Et donc, parfois, ces solutions peuvent être un réel soutien. Et ce que je veux dire, c'est que peu importe la méthode, je crois que ce qui est vraiment important, c'est la posture du parent. Est-ce que je suis en accord avec ce que je mets en place? Est-ce que je suis alignée avec le fait que pour moi, aujourd'hui, ça, c'est juste? Est-ce qu'il y a un endroit en moi où je me dis... Oui, aujourd'hui, c'est la solution que je trouve et c'est le cadre que j'ai envie d'offrir à mon enfant, en sachant qu'en dehors des temps de sommeil, je suis là pour l'accompagner, le sécuriser, passer des temps privilégiés, de liens, et que dans d'autres moments dans la journée, j'ai ces moments qui viennent nourrir la sécurité, l'attachement. Alors, un peu les nouvelles méthodes ou les nouvelles propositions aujourd'hui sont celles, par exemple, j'ai nommé Fais dodo dans le premier épisode, sont des approches qui vont notamment mentionner le fait que très vite, le bébé va prendre des habitudes, elle va parler de stratégie d'endormissement. Et donc, elle va faire la référence à même nous, adultes, on va avoir nos habitudes. Moi, je m'y retrouve pas trop, mais certains ont besoin de leurs chaussettes, de leur oreiller bien dur, de la chambre aérée et de la couverture et du partenaire à côté de soi pour s'endormir. Et il faut toutes ces conditions pour s'endormir, sinon ça marche pas. Alors, elle invite à ce que les stratégies de sommeil soient le plus simples possible pour qu'elle puisse s'adapter dans différents contextes. Mais en tout cas, moi, ça m'a quand même apporté un éclairage sur le fait que, oui, en fait, si mon bébé s'endort systématiquement au sein, qu'il n'a connu que ça, ben le jour où je vais vouloir le mettre dans son lit, ça va être compliqué. Et forcément, il y a un changement, je lui propose un changement, donc il va y avoir une résistance, il va probablement y avoir des protestations, des pleurs. Et donc c'est peut-être ça aussi mon rôle de parent, c'est d'accepter que les changements c'est pas évident et que mon rôle, c'est de l'accompagner dans cette transition en lui disant qu'il va y arriver, en lui donnant la confiance qu'il a les compétences d'eux et en l'autorisant à exprimer sa colère et sa frustration. Après, plus l'enfant va être âgé, plus les habitudes vont être prises et plus le déconditionnement va être important. Et donc, on parle même un peu de sevrage. Et donc là, on peut rentrer un peu plus dans un bras de fer. Là, je vais peut-être en profiter pour parler des différentes tranches d'âge et vous inviter du coup aussi à être à observer votre enfant et à voir ce qu'il est en mesure de faire. Enfin, c'est pas qu'une question d'âge, mais c'est aussi une question de quelles sont ses compétences, les compétences qu'il a pu développer. S'il a une naissance traumatique, il aura peut-être besoin de plus de temps pour reconstruire une sécurité et donc pouvoir trouver des stratégies pour s'endormir en autonomie par lui-même. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le témoignage de deux de mes amis, c'était cette invitation à tester et observer. Et toutes les deux, elles ont pu me dire, plusieurs fois, je l'ai posé dans son lit, je lui ai dit que j'allais partir, je lui ai expliqué que c'était la nuit, qu'il allait dormir, et puis je suis partie, et puis j'ai entendu qu'il m'appelait, je suis revenue, je l'ai vraiment senti en détresse, et j'ai senti que c'était trop tôt pour lui. Et deux mois plus tard, et je crois que régulièrement, toutes les semaines, elles ont testé ça, et puis à un moment donné, elles ont senti qu'il était prêt, que là c'était bon, que c'était peut-être des pleurs de prostatisation, qu'il était plus dans une détresse, que là, aujourd'hui, à cette phase-là de sa vie, c'est bon, c'est prêt. Aussi avec cette notion que rien n'est jamais acquis, qu'il y a des moments de rechute, que si dans la journée, il y a eu une grosse angoisse, il aura peut-être plus difficile. S'il y a une poussée dentaire, ça va être un peu plus difficile parce qu'il doit, il doit gérer la douleur et il a besoin d'être rassuré avec cette nouvelle sensation dans sa bouche qu'il ne sait pas comment faire. Et donc, c'est comment, progressivement, je peux essayer de mettre en place des choses pour ne pas être dans un mode d'endossomissement qui va un peu comme me piéger et me rendre esclave de ce bébé. Et l'autre notion qu'elle apporte, fait dodo et d'autres, il y en a vraiment plein d'autres qui en parlent, c'est si je m'endors dans un contexte, dans ces moments de micro-réveil, je vais chercher à être dans le même environnement que celui dans lequel je me suis endormie. Donc, si je me suis endormie dans les bras de mon parent au sein, dans tous les micro-réveils, et il y en a beaucoup chez les petits, beaucoup plus que chez nous, ça se compte en 8 à 12, je crois. Il va chercher ces mêmes conditions. Et donc, s'il s'endort au sein, je le pose dans son lit, je pars dans ces périodes de micro-réveil. C'est pas comme d'habitude, il y a un peu comme un instinct d'insécurité, il y a quelque chose qui a changé, et donc un pic d'adrénaline, et donc un cri, un appel de « Eh oh, il y a quelqu'un !» Et du coup, ça sort complètement du sommeil, et c'est beaucoup plus difficile de replonger dedans. Et là, de nouveau, il y a des phases dans les âges, tout petit, de 0 à 2 mois, il a besoin de ses continuités avec la vie intra-utérine, de ce peau à peau, de ses odeurs, de cette chaleur, et du coup, allez-y. Enfin, moi, j'ai plutôt envie de dire les deux premiers mois, aller dans une continuité qui peut être assez fusionnelle, très proche, proximale. On voit quand même que vers les 4 mois, il y a un peu ce shift de l'enfant prend conscience de l'environnement et de ce qui est autour de lui, et donc il remarque beaucoup plus quand il y a un changement autour de lui. Et donc à ce moment-là, très souvent, il va y avoir plus de réveils nocturnes, des siestes plus courtes et des endormissements plus difficiles. Et du coup, comment est-ce qu'on peut un peu prévenir Donc moi, j'ai envie d'inviter aussi à se dire de ne pas attendre qu'on soit dans des situations avec des enfants, comme moi j'ai vécu, de 9 mois, qui ont des habitudes tellement ancrées où on est tellement au bout du gouffre qu'on n'arrive même plus à prendre du recul. Et donc comment déjà, peut-être dès les 3 mois de l'enfant, commencer à tester des petites choses, mais très, très, très à l'écoute, très dans la communication, en informant le bébé, en lui expliquant et dans des moments où vous êtes dans une sérénité, un ancrage, et que vous êtes en capacité de poser quelque chose de serein et de confiant avec cette, cette posture de « j'ai confiance que tu as les compétences de t'endormir ». Voilà, je crois que je pourrais encore parler des heures, mais je vais en rester là. Je vais juste nommer que sur le territoire Royan-Vercors, il existe, j'ai écouté votre émission, le relais nocturne de la crèche de Saint-Julien-en-Vercors.
Oui, depuis environ un an, je crois qu'ils ont lancé ça, ouais, sur le plateau.
Oui, et donc même si votre enfant n'est pas à la crèche là-bas, vous pouvez faire une semaine d'adaptation pour que votre enfant se familiarise avec le lieu, avec le personnel. Et un jeudi par mois, il y a des professionnels qui sont là la nuit pour accueillir jusqu'à 6 enfants. Et vous permettre, vous, d'aller faire une bonne nuit, de prendre un peu de recul, de trouver un peu de relais. Ça peut être très ponctuel, ça peut être tous les mois pendant une certaine période. Il faut pour ça une prescription médicale d'un médecin, d'une sage-femme. Donc cette solution-là, elle existe. Il me semble que l'association Naître et Grandir en Confiance propose aussi des accompagnements nocturnes. Contactez-les. Et Coco, elle est conseillère en sommeil aussi. Et puis, il existe de nombreuses consultantes. J'ai un peu oublié la différence consultante-conseillère-sommeil qui font des accompagnements très souvent en ligne. Alors... soit individuel, soit par des vidéos, déjà pour vous informer sur la physiologie du sommeil et tout ça, enfin déjà un peu mieux comprendre c'est quoi les besoins de l'enfant, son rythme, tout ça. Et peut-être nommer que tout ne se résout pas en une fois. Moi, je sais que j'ai fait appel à des professionnels et j'avais beaucoup de mal à financièrement mettre le paquet, mais qu'une séance, ça n'a pas suffi à venir déconstruire mes croyances, mes blessures, mes peurs, et que j'aurais eu besoin d'un soutien beaucoup plus régulier, beaucoup plus contenant, beaucoup plus rassurant. Et du coup, se pose pour moi aussi la question de comment on s'autorise à investir financièrement pour notre sécurité, enfin notre santé plutôt mentale, émotionnelle, et se dire que peut-être cette prime de naissance, elle peut être là en secours pour quand j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de... pour pas rester seule, parce que malheureusement, dans notre société, tout ça, ça se monnaie quand même souvent.
Eh bien, merci beaucoup Céline pour toutes ces informations, ces témoignages et donc ces ressources aussi sur la question du sommeil de notre bébé. Et on indiquera donc bien sûr toutes les ressources dont tu parles dans cette chronique sur le site internet de Radio Royan, radioroyan.fr. Et on retrouve très bientôt des membres du collectif Féminin Naissance Royan-Vercors pour de prochaines chroniques Osons l'Intime. Merci à Céline et à Stéphanie qui étaient présentes aujourd'hui.
Et si vous voulez en savoir plus sur le sommeil des bébés, on organise avec le collectif Féminin Naissance une projection du documentaire Mon postpartum par Eve Simonet qui se fait à La Paz au centre social à Saint-Jean-en-Royans. On l'organise en 4 épisodes. Le 3e épisode sera diffusé le 2 mars à 19h30 jusqu'à 21h, donc une demi-heure de projection et un temps d'échange d'une heure pour ceux qui souhaitent rester. Et la dernière projection, le 30 mars, pareil, 19h30, 21h. La projection est gratuite. Le 2 mars, la projection sera vraiment sur la thématique du sommeil du bébé et des parents. Et la projection du 30 mars sera davantage autour de la thématique de la place des pères et de ce postpartum plus long, au-delà des premiers mois. Et vous pouvez vous inscrire au 07 83 60 72 85. Vous trouverez toutes les informations sur le site Féminin Naissance Royan-Vercors ou nous envoyer un mail fémininnaissance@gmail.com.
Merci beaucoup à toutes les deux. Pour de prochaines chroniques Osons l'Intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan-Vercors à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.